Le monde aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain, nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et Après, une nouvelle émission dans laquelle nous allons partir à la découverte de cette nouvelle société pour tenter de décrire le monde de demain, ou en tout cas le monde que l'on peut envier pour les générations futures. Alors je me présente, je suis Augustin Morel et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode. Et pour commencer, quelques informations au sujet de l'émission pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le teaser. L'idée est de partir à la rencontre de celles et ceux qui pensent, qui façonnent ce monde de demain. Et pour chaque épisode, je vous propose une double approche. D'un côté, une vidéo disponible sur notre chaîne YouTube Et Après, où vous trouverez l'essentiel du sujet et le plus souvent mise en image. Et puis, si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver ici, en podcast, un entretien avec là ou les personnes que nous rencontrons. Cette interview, pas ou peu éditée, vous permettra d'explorer le sujet, le thème de l'épisode, en profondeur. Voilà, c'est tout simple. Et sans plus attendre, nous allons attaquer notre premier épisode. Alors, petit disclaimer d'entrée de jeu, nous avons enregistré l'interview au mois de mai 2023, ce qui peut expliquer le léger décalage avec l'actualité, mais je vous rassure, rien de bien méchant. C'est donc parti pour le premier épisode Dès Après, l'émission où l'on se demande, où l'on imagine, à quoi ressemblera vraiment le monde de demain. Un monde plus juste, plus décarboné et plus durable. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de Molo, une plateforme en ligne qui vous aide à réaliser des voyages bas carbone, et on tape très fort car dès ce premier épisode, nous n'avons pas un ni deux, mais bien trois invités, rien que ça. Donc nous avons Alizé, bonjour Alizé.
Bonjour.
Nous avons Cara, bonjour Cara.
Bonjour.
Et nous avons Léo, bonjour Léo.
Bonjour.
Alors pour commencer cet épisode, je voudrais d'abord, on va parler de Molo et de votre projet un petit peu après, mais que vous puissiez me présenter chacun une bonne nouvelle sur le climat, sur le changement climatique, sur notre monde de manière générale. Je vous écoute. Qui veut commencer ?
Je peux me lancer. Moi, je vais parler du plan de financement qui a été annoncé par la France d'ici 2040 pour le ferroviaire. Donc 100 milliards d'euros qui normalement vont être investis dans tout ça et espérons que ça fasse changer les mobilités d'ici là.
C'est un investissement qui est nouveau.
La France est un pays où le train est déjà pas mal développé, mais là c'est le ferroviaire au sens large, donc il y aura aussi du RER, des choses autour des villes, des agglomérations pour vraiment modifier les mobilités, notamment changer de la voiture au train. Et donc c'est vraiment un gros programme qui est prévu où pas seulement l'État, mais aussi les acteurs du transport en général devront contribuer. Et donc ça, c'est assez nouveau.
Super. Alors donc le thème du ferroviaire est posé dès le début. On va en parler un peu. C'est un peu le gros sujet de l'épisode. Mais on y vient après. Alors toi, Cara, est-ce que tu as une bonne nouvelle sur le climat ?
Ouais, du coup, je vais continuer sur le thème des transports qui nous anime un petit peu, hein, désolé. Mais plutôt côté aviation. Moi, c'est la dernière bonne nouvelle qui m'a donné un peu de baume au cœur. C'était quand j'ai appris que l'aéroport d'Amsterdam avait décidé d'interdire les jets privés d'ici 2025. Donc, c'est pas si lointain que ça, finalement. Et puis, même les liaisons de nuit, pour des raisons de nuisance sonore également. Donc, c'est un des plus gros aéroports européens qui prend une décision qui est assez drastique et poignante, surtout quand on parle des jets privés de manière assez régulièrement depuis quelques mois en France. Donc ouais. Je trouve que c'est un symbole assez fort qu'ils envoient et on espère que certains aéroports suivront.
On espère que ça va suivre chez nous. Ouais.
Le lancement, mais ouais.
Ok, très bien, ouais, bonne nouvelle et on espère que ça inspirera un petit peu en France et puis ailleurs en Europe et dans le monde. Et toi, Léo, alors est-ce que tu as réussi à nous trouver une troisième bonne nouvelle, ce qui était un peu la mission compliquée du jour ?
Ouais, j'ai réussi. Moi, je vais vous parler du Parlement européen qui reconnaît maintenant pénalement la notion d'écocide et qui va permettre du coup de pouvoir poursuivre les entreprises ou les individus qui font des actes qui vont à l'encontre du coup du climat et aussi de la biodiversité. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de parler un peu de biodiversité. C'est pas forcément le sujet qu'on aborde avec Molo, mais on parle peu de biodiversité, c'est un peu le parent pauvre de l'écologie. Et pourtant, on fait nous-mêmes partie de la biodiversité, on est nous-mêmes dépendants de cette biodiversité. Que le Parlement européen mentionne ça, c'est un gros signal envoyé au monde. Et après, on va voir concrètement comment ça va se passer. Mais du coup, je trouvais que c'est quand même une bonne nouvelle qui a à la fois touché la partie climat et la partie biodiversité.
Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler du climat, de nos bilans carbone. Bon, on va en parler pas mal aujourd'hui, mais on a aussi la biodiversité. On parle du plastique aussi, qui est en fait un sujet un peu à part, le plastique dans l'océan, même si c'est parfois lié à notre consommation, comme peut être notre bilan carbone. Bah, écoutez, merci pour ces bonnes nouvelles. Comme quoi, on a réussi à en trouver, alors qu'on a plutôt l'impression qu'il y en a des mauvaises, mais on arrive à en trouver, donc on va garder espoir. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est carrément kiffant, c'est-à-dire le voyage, mais le voyage du futur. C'est-à-dire le voyage bas carbone et non pas des avions avec des piscines. Alors, vous êtes Molo, vous êtes une start-up. Est-ce qu'on peut dire start-up ou c'est un peu has-been ?
Peu. On est une association.
Ouais.
Mais en effet, on veut la mener comme ce qu'on pourrait dire, ça ramène des start-up. Il y a différentes connotations derrière ce mot-là. On n'est pas forcément dans l'idée de lever un max de fonds pour avoir une croissance la plus rapide possible. Mais plutôt de créer vraiment un modèle économique qui va soutenir l'association. Et pourquoi on a choisi ce modèle-là ? C'était plutôt l'idée derrière que les profits vont pas revenir dans notre poche ou dans celle d'investisseurs, mais plutôt dans le projet qu'on construit ensemble, qui est le projet Molo, et donc la décarbonation de nos voyages.
Super, donc la décarbonation des voyages. Sur votre site, il y a écrit « Promouvoir un mode de voyage durable et diffuser des outils facilitant le passage à l'action ». Alors, donc, vous êtes une association, et vous, votre but, c'est de dire qu'on peut voyager en émettant moins de CO2, et donc voyager plus, pourquoi pas, mais en polluant moins, et donc pour nous permettre d'avoir à tous un monde un peu plus durable. Alors, est-ce que vous pouvez me résumer l'idée, peut-être d'où c'est venu cette envie de monter cette association, et puis quels sont ses objectifs ?
Alors, on pourra chacun exprimer notre point de départ dans ce projet-là, mais du coup, c'est vrai que le projet qui se nomme Molo, en tout cas, a démarré il y a une petite année, dans le cadre de mon école d'ingénieur, puisque j'ai pu prendre une filière qui me permettait de me consacrer pleinement à un projet entrepreneurial. Et moi, c'est ce que je cherchais, un projet qui a du sens, donc lié au développement durable, à comment réduire l'impact carbone de nos modes de consommation. Et le sujet du voyage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un sujet quand même qui est assez kiffant. Et donc, quand on se dit qu'on va se lancer dans une aventure pareille, c'est bien de se dire qu'on va travailler à la fois à la décarbonation, certes, mais aussi à quelque chose qui nous fait plaisir et je pense qui est assez enthousiasmant pour beaucoup de gens. Donc voilà, c'est né de là et du fait que... alors je ne sais pas si Léo a dit c'est exactement pareil pour vous, mais moi j'ai décidé d'arrêter l'avion, en tout cas le plus possible, il y a 2-3 ans. Et de suite, on se confronte quand même à pas mal de barrières, surtout quand on a de la famille à l'étranger. Et donc voilà, voyager en train en France, c'est relativement facile. Dès qu'on sort des frontières, c'est beaucoup plus complexe d'avoir... accès à l'information, aux itinéraires, à savoir exactement où réserver, combien ça va me coûter. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était quand même assez dingue qu'il n'y ait pas plus d'acteurs sur le marché pour faciliter ce mode de transport-là.
Parce qu'il y a les acteurs ferroviaires qui proposent le service, mais l'information n'est pas toujours facilement accessible, en tout cas quand on sort de France.
Oui, c'est ça. Il y a quelques comparateurs, en plus, de plus en plus, qui commencent à se développer sur ce sujet-là. Mais sur toute la partie justement inspirationnelle, savoir ce qui est vraiment faisable... ça rassure vachement quand on part sur des voyages comme ça, enfin, même quand on achète le moindre truc, on va avoir les avis des gens. Et quand on se lance dans une aventure pareille, c'est quand même cool de savoir à quoi s'attendre. Un voyage en avion, on le sait relativement. Quand on va enchaîner 3 trains, on le sait peut-être un peu moins. Et donc, il n'y avait pas du tout ce côté-là dans les comparateurs. Et eux, ils nous donnent comment aller d'un point A à un point B. Mais ils ne nous donnent pas forcément l'univers des possibles en train. Donc, voilà.
Ok, donc en fait, Molo, ça propose des voyages, différents itinéraires peut-être ?
Ouais, en fait, Molo, c'est un merveilleux outil pour le nouveau voyageur ou la personne qui veut voyager autrement. Il peut faire 3 choses, en fait, il peut venir pour s'inspirer, donc trouver des nouvelles destinations, s'apercevoir qu'il peut aller jusqu'en Turquie, à Séville, au Maroc. Une fois qu'il s'est inspiré, on lui fournit aussi un outil. Donc Molo, c'est aussi, ça lui permet de s'organiser. Donc on lui donne des informations sur les villes à visiter, sur ce qu'il y a à faire dedans, et ensuite on l'aide surtout à organiser la réservation des billets, qui est vachement compliqué. Ce qui est compliqué sur le train, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en fonction des pays, et chaque acteur du coup nécessite d'avoir du coup sa propre plateforme, ou alors faut passer par des comparateurs, ou comme disait Kira, ou des autres plateformes qui réservent, mais il n'y en a aucune qui est réellement complète et qui permet de tout faire. Et donc nous on l'aide à s'organiser en le redirigeant, et en pré-machant un peu le travail, et on le redirige vers les plateformes pour qu'il puisse du coup faire ses réservations. Et la dernière chose, en fait, on lui permet de s'exprimer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son voyage, le but, c'est qu'il devienne, c'est qu'il partage son expérience. Parce qu'une des barrières, au-delà du temps, c'est la notion de faisabilité. On est dans une société où ça fait 20-30 ans qu'on est habitué à prendre l'avion, à aller d'un point A à un point B, et c'est rentré dans les normes. Et aujourd'hui, ce même trajet qui peut se faire en train, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les normes. Et du coup, on a besoin, en fait, de le dire, on a besoin de le montrer aux gens. Et plus on montrera que Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde peuvent faire un Paris-Athènes en train, bah plus en fait il y aura des gens qui disent en fait bah c'est normal et ça va redonner, ça va devenir un nouveau réflexe. Et en fait grâce à cet aspect un peu communauté et grâce à la plateforme qui permet aux voyageurs de rentrer son trajet et de montrer que c'est faisable, on souhaite créer un peu un effet boule de neige pour encourager le plus de monde à prendre le train et découvrir le voyage mollo.
Ok, donc en fait, effectivement, quand on va voir votre site, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller le voir, parce qu'il est très bien fait, très sympa, on a un catalogue un petit peu de voyages. Il y en a qui sont proposés par vous directement, et il y en a qui sont proposés par la communauté. Est-ce que vous filtrez les voyages qui sont proposés ?
C'est ça. Alors, on a vraiment toute une partie où là, on va vraiment nous checker chaque étape du voyage, s'assurer qu'on a bien tous les bons liens, que ça va être facile pour l'utilisateur de se rendre à la destination. Et ensuite, toute une partie où n'importe qui se rend sur le site va pouvoir ajouter son voyage qu'il a fait, que ce soit un court voyage, un long week-end en France en train, un périple jusqu'au fjord, au fin fond de la Norvège, tout est possible. Et ensuite, nous, bien sûr, on va avoir une étape où on va vérifier que l'itinéraire est OK, qu'il y a bien toutes les étapes rentrées. Mais ensuite, on laisse quand même libre cours à l'utilisateur de vraiment s'exprimer. En fait, c'est le but d'avoir une partie inspirationnelle qui est vraiment attaché à la personne pour que les gens voient que c'est une vraie personne derrière, qu'il a vraiment fait, et voilà ce qu'il en a tiré, et peut-être qu'il en a aussi tiré des galères. Le but, c'est d'être vraiment transparent et de montrer que chacun peut le faire. Donc oui, il y a un check, mais c'est quand même une partie où on reste transparent sur ce que les gens nous partagent.
Ouais. Et en tout cas, quand on va sur votre site, on voit qu'être écolo, ça peut être fun. Et même quand on galère, en fait, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais le voyage en soi devient le but des vacances ou du moment qu'on prend pour faire le déplacement.
C'est complètement l'idée derrière Mollo, quoi. C'est de dire que le trajet, à la base, un voyage, c'est pas juste la destination, c'est quand même le fait de se déplacer. Et donc de remettre le trajet au cœur de toute cette expérience-là. Parce que quitte à passer des heures dans le train, autant que ce soit fun. Et certes, ça veut parfois dire des galères, mais c'est aussi des souvenirs, quoi. Et ça veut aussi dire pas mal de moments d'échange, de découverte sur le chemin. Donc c'est vraiment tout ce qu'on essaye de transmettre, c'est ça, quoi. C'est profiter de votre trajet aussi.
Ok, top. Alors là, on parlait de pas prendre l'avion et de plutôt prendre le train, mais il y a aussi d'autres modes de transport. Il y a le bus, il y a le ferry, il y a la voiture, le scooter, il y a plein de choses. Est-ce que vous proposez ces autres mode de transport, comment vous comparez? Par exemple, si je veux aller en Irlande, je ne peux pas y aller en train, parce qu'il n'y a pas encore de train qui relie l'Angleterre à l'Irlande. Comment ça marche? Voilà.
En fait, on part du principe que ce qui compte à la base, effectivement, c'est la destination. On veut avoir une destination pour, comme on le disait, on a besoin aussi de se dépayser, il faut qu'on soit aussi cohérent et il faut qu'on soit lucide avec ce que les gens attendent. Les gens, ils veulent voyager. Ensuite, une fois qu'on a décidé d'une destination qui est intéressante, le but, c'est de créer un itinéraire qui soit le moins carboné possible pour y arriver. Dans un monde idéal, demain, le mode de transport le moins carboné, c'est le train. Dans une économie avec un mix électrique qui est moins carboné, etc. etc. Et du coup, ça, c'est le but ultime qu'on essaie de viser. Mais après, encore une fois, on est lucide. Il y a la théorie et la pratique. En pratique, malheureusement, aujourd'hui, le maillage territorial de l'Europe n'est pas suffisamment grand pour permettre de faire parvenir les gens dans toutes les destinations. Et si on veut avoir aussi une sorte de flexibilité, il faut qu'on rajoute d'autres moyens de transport. Donc le train, c'est plus de 90% des trajets qu'on propose. Et à côté, on a les 10% qui restent, qui sont séparés entre à la fois un peu de bus, quand c'est obligatoire, pour certaines régions, par exemple des régions un peu plus montagneuses. Et aussi, quand il faut traverser les mers, s'il y a des offres avec les voiliers, notamment avec la Corse par exemple, on fonce sur le voilier. Mais s'il n'y a pas d'offres sur le voilier, on propose une alternative avec le ferry. Et on essaie du coup de sensibiliser les gens sur quand même l'impact qu'il y a. C'est pour ça aussi qu'on a une partie blog sur laquelle on essaie de communiquer là-dessus. toujours dans le but de sensibiliser un maximum et permettre aux gens de voyager autrement en diminuant le budget, surtout par rapport à l'avion ou par rapport à une voiture, si jamais ils avaient voyagé tout seul en voiture. Ouais.
Parce qu'on rappelle que le ferry, alors les chiffres sont pas toujours les mêmes dans ce qu'on trouve, ça dépend évidemment de la taille du ferry, de combien il y a de voitures dessus, est-ce qu'il fait du fret en même temps, est-ce que les gens prennent des chambres, il y a plein de critères, mais en moyenne, on estime que le ferry, ça pollue à peu près autant que l'avion au kilomètre, en fait.
Mmh. Ouais, non, c'est un gros débat, le ferry, et nous, on a même débattu pour est-ce qu'on le prend en compte ou pas. C'est vrai que ça dépend vachement des chiffres, ça dépend vachement de si on a une voiture, si on prend une cabine. Généralement, quand même, ça, c'est en dessous si tu es voyageur seul et que tu ne prends pas de cabine et que tu es à pied. Mais si c'est pareil au kilomètre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on propose pas le même nombre de kilomètres en ferry que ce que tu aurais fait en avion en faisant de A à B ton trajet. Généralement, bah, le ferry, c'est le petit bout qu'on peut pas faire, bah, typiquement entre l'Angleterre et l'Irlande, parce qu'il n'y a pas de train et un petit bout de mer à traverser, quoi.
Ouais, donc tu vas jusqu'au Pays de Galles en train. Tu traverses en ferry et ouais, après ouais. Tu reprends le train si tu veux voyager en Irlande.
Mais oui, en effet, dans l'idéal, on aimerait proposer moins de ferry. Après, faut être cohérent avec ce que le meilleur, enfin le voyage qui aimait le moins, c'est celui qu'on ne fait pas, sauf si tu pars à vélo ou à pied. Après, c'est quelque chose qui va continuer d'exister, que les gens ont encore envie de faire et qui fait rêver et qui peut aussi amener à vachement de prise de conscience. Faut voir l'effet rebond qu'il y a derrière. C'est ouais. Ok, j'ai voyagé en ferry cette fois-là, mais en prenant plein de trains et en vraiment en prenant le temps, voyageant lentement, et bah du coup le prochain, je vais peut-être me dire ok, je suis complètement aligné avec cette façon de voyager là. Le ferry, ça m'a un petit peu dérangé, mais du coup maintenant je fais complètement du train et voilà, ça, il faut aussi prendre en compte le symbole qu'il y a derrière.
Ouais. Et du coup l'itinéraire devient partie intégrante du choix du voyage en fait. Au lieu de me dire je vais absolument aller à tel endroit. Et je me démerde, je trouve un moyen. Non, c'est plutôt de dire, ah bah là, il y a un train, il a l'air sympa, je vais le prendre. Et puis bon, où est-ce que ça peut m'emmener? Et c'est ça qui vient plutôt dans un second temps.
C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant, en tout cas. Par exemple, sur notre site, on a toute une partie où on voit les trains de nuit. Et ça, c'est quelque chose que les gens parfois repoussent ou ont un peu peur, parce qu'ils se disent, une petite cabine, on est à plein avec des gens qu'on connaît pas, etc. Bah, nous, on va essayer de transformer les imaginaires de ces gens pour leur montrer qu'en fait, le train de nuit, c'est une super aventure, on peut y partir avec des enfants. On part d'un point B, on arrive à un point A juste en ayant dormi et on se réveille, on va prendre un petit déjeuner sur la plage au bord de mer. Et voilà, et en fait, c'est pour ça qu'aussi, pour chaque destination, on essaye de proposer plusieurs itinéraires. Un où la personne va pouvoir se rendre à sa destination le plus rapidement possible et un qui va favoriser, bah, par exemple, ce type de train superbe qui va peut-être traverser les Alpes avec de superbes vues tout au long du trajet, un avec un train de nuit pour l'expérience, etc., etc.
Ok, donc là c'est bien, tu parlais des imaginaires, il y a un imaginaire du train qu'on a en France en plus un peu particulier parce qu'on est tous plus ou moins attachés à la SNCF, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres parce qu'on fait beaucoup la comparaison entre l'avion et le train. Donc en France, notre plus gros poste de dépense quand on parle d'émissions carbone, c'est les transports. C'est ce qui vient en premier quand on regarde le découpage des activités qu'on peut avoir. Et pour le bilan carbone moyen d'un Français, le plus gros poste de dépense, c'est la voiture. Par contre, quand on regarde sur ce qu'on appelle les longs trajets, donc l'INSEE découpe à au-delà de 80 km, à ce moment-là, c'est l'avion qui devient le plus gros moyen de transport, puisqu'il va représenter 43% des distances, donc de plus de 80 km qui sont parcourues, contre 40% pour la voiture. Et l'avion a dépassé la voiture entre 2010 et 2020. C'est-à-dire qu'avant 2010, c'était encore la voiture qui avait le devant sur ça. Voilà. Et on peut aussi rappeler que en France, on parlait de mix énergétique tout à l'heure, avec notre mix énergétique qui est un peu moins carboné, on estime environ que le train pollue jusqu'à 50 fois moins qu'un avion. Est-ce que c'est le chiffre que vous retenez ou vous êtes un peu au-dessus, un peu en dessous?
C'est l'ordre de grandeur.
C'est l'ordre de grandeur, ouais. Après, ça dépend du coup, ça dépend effectivement de quand la ligne a été construite, comment elle est rentabilisée, enfin, comment elle est comptabilisée d'un point de vue comptabilité carbone. Mais oui, effectivement.
Ça dépend quel type de train aussi. Ouais. Il y a encore des trains en France qui roulent au diesel.
Au diesel. Ouais. Mais,
ça reste beaucoup moins qu'un avion.
Oui,
bien sûr. Parce qu'en
en fait, le
principe de rouler sur des rails, tu perds peu de perte d'énergie moteur. Donc, en fait, tu restes quelque chose qui est vachement cohérent et qui restera toujours bien moindre que le bilan carbone de l'avion.
Il n'y a pas besoin de soulever 150 personnes à 11 km d'altitude. Exactement. Donc toute cette énergie-là en moins.
Dans
quoi.
Une carriole en métal.
Ouais. voilà. Et donc, pour rappeler encore un dernier ordre de grandeur, en France, le bilan carbone moyen d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent par an. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il faut qu'on arrive à 2 tonnes d'ici 2050 pour arriver dans un monde durable et respecter les accords de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré ou 2 degrés si on n'y arrive pas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est à peu près à plus 1,1 à peu près et on en est là. Donc, il faut passer de 10 tonnes à 2 tonnes et l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est qu'un aller-retour à New York, c'est exactement tout pile à peu près 2 tonnes. Donc, si vous faites un aller-retour à New York en avion, vous avez consommé votre budget carbone pour l'année si vous voulez respecter les accords de Paris. Donc, la question qui vient un peu naturellement après ça, c'est est-ce qu'il faut déclarer la guerre à l'avion ou est-ce que c'est un peu extrême ? Pas facile.
Non. Alors, je pense que...
C'est un gros débat en France.
Mais je pense que c'est assez simple. Je pense que oui, il faut déclarer la guerre à l'avion, mais il faut savoir qui le fait. Qui fait la guerre ? C'est-à-dire qu'on est dans une société où on est tous des individus avec des fonctionnements, des raisonnements différents. On est tous plus ou moins avancés dans la partie écologique et on a tous besoin d'avoir un accompagnement personnalisé dans notre avancée écologique. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui font la guerre à l'avion parce que ces gens permettent de créer, de mettre un coup de projecteur sur le problématique de l'avion. Et donc d'éveiller les consciences chez certaines personnes chez qui ce n'est pas encore éveillé. Donc oui, on a besoin de faire la guerre à l'avion. Maintenant, est-ce que nous, on a envie de faire la guerre à l'avion ? Non, parce qu'on pense que ce n'est pas notre rôle, qu'il y a des gens qui le font très bien, et que du coup, il y a des gens qui ne veulent pas être culpabilisés, à qui il faut plutôt vendre du rêve, et c'est plutôt là-dessus qu'on se positionne. Et donc nous, en fait, on va être plutôt dans une logique de « Ok, on a trouvé notre rôle », on pense qu'il faut faire la guerre à l'avion, mais c'est pas notre rôle. Il y a des gens qui le font très bien et il faut continuer à le faire. Nous, on pense qu'on va accompagner d'autres personnes qui n'ont pas besoin de cette guerre de l'avion, mais nous, on va les accompagner du coup différemment. Et en faisant ça, je pense que chacun, si on arrive tous à trouver un peu notre rôle dans cette lutte écologique, en fait, on parlera à beaucoup plus de monde et ça nous permettra du coup d'avancer plus rapide. Après, il faut pas non plus, il faut pas être dans l'aveuglement de continuer à pousser les choses, mais voilà, il faut être cohérent. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de dire qu'il faut faire la guerre à l'avion. Parce que c'est quand même le point d'ancrage, c'est quand même la logique dans laquelle on veut aller. Maintenant, est-ce que nous, c'est notre rôle ? Je pense pas. Je pense qu'on veut faire les choses différemment, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été un peu reconnus et que les gens ont apprécié aussi le lancement, parce qu'on est arrivé avec du coup une démarche qui n'était pas du tout culpabilisatrice, où on part un constat qui est factuel, et on propose une autre alternative.
C'est de savoir si c'est efficace ou pas de faire la guerre à l'avion, et je pense que c'est toi qui avais dit cette phrase, Léo, que je trouve très cool. Plutôt que de faire culpabiliser les gens de prendre l'avion, on veut leur donner envie de prendre le train. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça, encore plus dans la thématique du voyage. Le voyage, t'as besoin de rêver, c'est par essence, c'est ça. Donc, matraquer les gens de l'impact carbone de l'avion, ça va fonctionner sur certains, très peu. Mais pour enclencher le passage à l'action, généralement, c'est pas ça qui fonctionne vraiment bien, quoi. Mais après, en effet, oui, il faut réduire le trafic aérien. Par contre, on est conscient, je pense, qu'on ne peut pas être naïf sur le fait que l'avion sera toujours là et qu'il faut aussi qu'il y ait de la transition du secteur. On n'est pas en train de dire que ça ne sert à rien de faire évoluer le secteur de l'aérien parce qu'en fait, il faut tout arrêter. Non, ce n'est pas vrai, ça ne sera jamais possible. Et donc, il faut juste... On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi qu'il y a des personnes qui sont majoritairement responsables des émissions liées à l'aviation. Et donc, c'est comme tout, dans tous les secteurs... écologique, on va dire, comme devenir végétarien, c'est peut-être pas... tout le monde n'a pas besoin de devenir végétarien, il faut juste que chacun baisse sa consommation de viande, là c'est peut-être un peu pareil.
On peut en parler tout de suite, parce que ça me semble être tout à fait à point. Donc j'avais noté quelques chiffres, moi, sur l'avion, qui est quand même un... On dit qu'il faut arrêter l'avion, mais en fait, il y a peu de personnes qui prennent l'avion. Finalement, c'est quand même... ça démontre aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités sur le sujet du voyage. En 2018, par exemple, on a seulement 2 à 4% de la population mondiale qui a pris l'avion. Entre 2 et 4% des gens qui sont montés dans un avion, donc c'est finalement assez peu. On peut aussi citer le chiffre, encore plus extrême, que parmi ces gens qui prennent l'avion, donc on est déjà sur pas beaucoup de monde, il y a
1% de la population qui fait 50% des émissions de CO2. On a récemment beaucoup parlé des jets privés en France. En France, le chiffre qui est assez extraordinaire, moi j'avoue, quand je l'ai découvert, j'étais assez étonné, c'est qu'un avion sur 10 qui décolle, c'est un jet privé. Donc il y a quand même 10% des vols qui sont des vols privés avec seulement une ou quelques personnes en fait à qui le décollage de cet avion sert vraiment. Et pour donner un exemple encore plus extrême, Elon Musk a pris 171 fois son jet en 2022 et ça représente 2112 tonnes de CO2 équivalent. C'est ce qu'émettent à peu près 200 Français sur un an. Et lui, c'est juste pour se déplacer. Voilà. Donc, effectivement... quand on veut s'attaquer à l'aviation, on va pas juste dire aux gens bah, « arrête de prendre l'avion », il faut peut-être voir aussi comment répartir un peu mieux la charge. Et déjà, ça permettrait de la réduire plus facilement. Vous en pensez quoi ?
Moi, je pense qu'en fait, tous ces chiffres, ils sont vrais sur l'empreinte carbone en général. C'est vrai pour l'avion, c'est vrai pour le voyage en général. Et aujourd'hui, quand on parle de voyage, dans tous les cas, c'est quelque chose de privilégié. Aujourd'hui, on s'adresse à une population, en tout cas avec Molo, qui est très française ou du moins européenne, eh bien, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais l'empreinte carbone de ces personnes, elle est bien plus élevée que l'empreinte carbone de la part la moins riche de la population mondiale. Donc finalement, si on veut arriver à changer les choses, nous on s'adresse déjà aux plus gros pollueurs, et donc les faire transitionner sur le train, bah, ça peut être la solution. Alors bien sûr, nous on n'a pas Elon Musk dans nos targets d'audience, mais on a quand même des gens qui aujourd'hui voyagent dans tous les cas, le font potentiellement de manière très carbonée, et si on arrive à les faire changer, ce sera déjà une bonne chose.
Ouais, ok. Alors est-ce qu'on voyage trop ? Est-ce que justement cette facilité qu'on a à voyager, à prendre l'avion comme ça d'un coup de tête, je peux me dire allez, je prends un billet, je pars en Thaïlande le week-end prochain, est-ce que ça... C'est normal.
Voyager ne veut pas dire prendre l'avion, du coup.
Mais... Non, je sais, mais est-ce que, justement, la facilité qu'on a à bouger avec tous les moyens de transport qu'on a nous a mis dans une culture qui fait que le voyage, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'adore voyager, c'est comme ça que je me ressource. » Ce que je comprends, c'est normal, ça fait du bien de changer d'air. Mais est-ce que, alors là, je vais être peut-être très clivant, est-ce que pour aller sur une plage, pour bronzer, on est obligé d'aller très loin ? Est-ce qu'on peut pas aller... c'est pas moi, en Vendée.
C'est mieux.
C'est mieux.
Non, mais je pense qu'on peut répondre. Est-ce qu'on voyage trop ? Oui. Enfin, nous, Européens, Occidentaux, oui, on voyage trop. Et aujourd'hui, effectivement, on a inscrit le voyage dans notre modèle de consommation. Et on consomme le voyage. On est devenu des... on coche des listes. On a un peu la liste de pays qu'on a envie de faire. On a envie d'y aller. On est content au travail quand on en parle à la machine à café. Et on revient rarement aux mêmes endroits, parce que vraiment, tu vois, on a cette notion. Et comme tu le dis, on voyage pour décompresser. Alors que du coup, le problème, c'est peut-être du coup le travail qu'il faut changer. On voyage pour découvrir de nouvelles cultures. Alors qu'au final, on arrive dans un aéroport qui est toujours le même. On suit des circuits qui sont généralement les mêmes. Après, bien entendu, il y a des exceptions et on essaie de trouver autre chose. Mais quoi qu'il arrive, on est dans cette posture de consommer. Et c'est devenu une habitude. C'est aujourd'hui c'est normal. C'est malheureusement le cas, mais c'est normal d'aller à Marrakech pour un week-end de 3 jours. Et malheureusement en fait c'est une normalité qu'on a dans notre société occidentale et qui est complètement décorrélée de la réalité mondiale. Tu le disais tout à l'heure entre très peu de moins de 20% et moins de 10% des gens ont déjà pris l'avion en 2018. On est dans une normalité, mais on est dans une sorte de bulle qu'on a créée normale. Mais en fait, c'est complètement aussi décorrélé des réalités scientifiques qui le disent. Et on le disait tout à l'heure, il faut réduire tous les secteurs. L'avion en fait partie. Et effectivement, il faut peut-être revenir à l'essence. Quand on veut du dépaysement, qu'est-ce qu'on recherche ? Quand on recherche une plage, est-ce que c'est la plage qu'on recherche ? Ou est-ce que c'est juste le fait de dire aux gens « je suis allé en Thaïlande » pour que tout le monde dise « ah, trop de chance, t'es allé en Thaïlande ». Alors qu'en fait, la plage de Vendée, elle est très belle.
C'est peut-être pas voyager trop, mais voyager trop loin.
Ouais.
Parce que trop, je fais peut-être un peu l'avocat du diable là-dessus, mais je comprends très bien que je sais pas, l'homme ait besoin de voyager, ouais. L'a toujours eu, et tous les avantages du voyage qu'il y a derrière. Enfin, honnêtement, moi, c'est un voyage qui m'a un peu déclenché pas mal de réflexions sur le développement durable, sur ma place dans tout ça. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut. En tout cas, avec Molo, notre but, c'est pas de dire on va voyager moins, au contraire d'ailleurs, mais plus faites-le de façon, enfin, voyagez vraiment quoi. Et pour ça, en effet, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde dans un resort ou sur une plage. Voyager, ça peut être aussi un week-end en France, ça peut être 2 semaines dans la montagne. Et dans ce cas-là, pour moi, il n'y a pas de... Je ne vois pas comment on pourrait dire que c'est trop.
Bah, de ce qu'on est en train de dire, il y a le trop loin et il y a le trop en fréquence. Parce qu'on peut ne jamais aller très loin, mais aller que, je ne sais pas, en Grèce, au Maroc, mais 6 fois dans l'année pour un week-end. Et aller 2 fois dans l'année, un coup aux États-Unis, un coup en Asie. Je pense au niveau carbone, on se retrouve à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, mais qu'est-ce qui est le plus facile à arrêter ? Est-ce que c'est la distance ou la fréquence ?
Ça, je pense que c'est très variable en fonction des gens aussi. Mais ouais, c'est aussi pour ça qu'avec le train, je trouve que ça vient tacler pas mal de ces sujets-là, parce que oui, tu prends plus de temps, donc du coup, mécaniquement, tu vas pas partir 6 fois dans l'année comme ça, parce que si tu prends une semaine pour arriver à destination, un peu plus compliqué de poser ça plusieurs fois dans l'année. Et en même temps, tu voyages plus, parce que toutes les étapes de ton trajet, c'est un voyage en lui-même. Donc pour ceux qui veulent voyager beaucoup, honnêtement, je trouve que c'est quand même un mode de voyage qui peut convenir à tous ces gens-là, sans même parler de l'aspect écologique ou de la non-volonté de prendre l'avion. C'est juste une façon de voyager qui peut convenir aux grands voyageurs. Et nous, c'est un peu ce qu'on veut pousser, quoi.
Et donc, cette façon de voyager dont tu parles, c'est ce qu'on appelle le slow travel. Donc vous avez choisi comme nom Molo, donc Molo c'est moins vite quoi, c'est on y va tranquille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce slow travel, c'est quoi les avantages ? Bon, l'inconvénient numéro 1 c'est que c'est lent, donc ça c'est ça qu'on peut voir comme un inconvénient, mais que vous transformez en fait en avantage.
Ouais, le truc vraiment que je vois c'est le 4 ou 5 voyages en un quoi. En fait le mec qui part à Athènes en train, il va pas que parler d'Athènes, il va parler des villes où il s'est arrêté, dans lesquelles il a passé peut-être 1 ou 2 jours, et en fait il aura énormément d'expériences à raconter, mais aussi pour lui, à emmagasiner. Et là, pour moi, c'est ce que je vois, c'est vraiment le plus gros argument, et qui est un argument qui colle avec les attentes un peu de nos sociétés. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la logique de « on consomme le voyage », en fait on peut aussi le consommer comme ça. Et je reprends toujours ma métaphore de à la machine à café. Quand t'arrives à la machine à café, en fait, le jour où t'arrives, tu vas rentrer de tes vacances et tu vas dire, tu as fait quoi ? Alors tu vas dire qu'il est parti à Athènes. Toi, tu vas lui dire, moi j'ai fait Grèce, Italie, j'ai fait un stop en Croatie et ça et ça. Et en fait, tu l'as battu quoi. Tu l'as battu, sauf que t'es passé par le train quoi. Et en fait, socialement, tu vois, il y a ce côté aussi, cette inertie sociale qu'il faut aussi transformer. Et c'est une manière de la transformer et qui est, je pense, pas incompatible avec nos petites quêtes d'ego et de consommateurs de voyage, quoi.
Parce que tout à l'heure, tu parlais de la liste de trucs que tu coches, mais donc quand tu passes par plein de pays, en fait, tu coches plein de cases d'un coup, quoi.
Tu coches l'expérience, tu coches des nouvelles trucs, de la nouvelle nourriture, tu postes des nouvelles photos sur Instagram si t'as envie d'alimenter sur ton feed. Donc, en fait, c'est pas du tout incompatible.
Donc, en allant plus lentement, tu coches plus vite.
Tu peux.
Je vous l'avoue. Ça marche. C'est cool. Et donc, en fait, on est vraiment dans l'esprit de la sobriété en faisant ça.
Oui. Oui. Non, mais on veut pas, encore une fois, on veut pas forcément que le présenter sous cette forme-là.
Ouais. Mais dans l'esprit. Après, on n'est pas là à dire
toutes ces formes,
tu vas moins voyager. Non, tu vas voyager mieux, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pas que sobriété écologique. Quoi. C'est pour revenir à un truc peut-être un peu plus simple et qui, finalement, te stresse peut-être un peu moins. Je sais pas, moi, ça m'a pas mal travaillé de me dire que je connaissais moins les régions de France que l'Amérique latine, quoi. c'est quand même un problème, je trouve. Et quand tu disais tout à l'heure, on voyage trop. Non, mais ça, c'est trop bien de découvrir une nouvelle culture. Je comprends très bien qu'on ait envie de le faire. Et ça apporte énormément de choses. Sauf qu'on connaît même pas celle de nos voisins, quoi.
Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais plus jeune, c'est que à chaque fois que je voyageais, et plus j'allais loin de la France, plus on me disait « Oh, la France, c'est un si beau pays !» Et on me parle d'endroits que j'ai jamais vus. Et c'est vrai qu'on se dit « Il faudrait que je commence par chez moi avant d'aller loin, en fait. »
Ouais, c'est ça. Je me dis encore, il y a plein de trucs à découvrir en France.
Ouais. Ok, c'est cool. Alors, on va revenir un petit peu sur le train, donc objet de fantasme. est-ce que culturellement, on a un problème avec le train en France ?
Je pense que oui et non. À la fois, on l'adore, à la fois, on le déteste. Il y a aujourd'hui, et je pense qu'il y a quand même des gens qui en sont conscients, on a un super réseau de trains, il y en a partout, qui est quand même assez accessible, et tout ça. À la fois, on se plaint beaucoup, et on l'a vu encore plus, je pense, sur l'année qui est passée, avec des grèves, c'est toujours trop cher, c'est toujours en retard. Mais je pense que c'est quand même un moyen de transport qui est très ancré dans notre société, et beaucoup plus que dans d'autres pays, alors voisins peut-être pas, mais en tout cas si on pense, je sais pas, aux États-Unis par exemple, où là-bas il n'y a rien du tout, ouais. C'est quand même quelque chose qui existe déjà beaucoup dans les imaginaires. Peut-être pas pour du voyage, encore moins pour du voyage lointain, mais en tout cas pour du quotidien ou des week-ends, etc., c'est quand même déjà assez développé.
Est-ce que vous, votre rôle, il est un peu didactique aussi pour rappeler aux gens la chance qu'ils ont d'avoir le réseau ferroviaire qu'on a, tu parlais de la France, mais aussi dans les pays frontaliers, ça va, c'est pas trop mal. Parce que quand on regarde un peu les itinéraires que vous proposez, par exemple, on veut réserver un train en Roumanie ou en Bulgarie, c'est pas évident. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Ou quand on peut voir par exemple l'accident de train qui a eu lieu en Grèce il y a 2 mois, on voit qu'il y a des problèmes d'infrastructure, il n'y a pas assez d'investissement, alors qu'il n'y a qu'une, il y a que 2 liaisons de train en Grèce, quoi. En plus, c'est même pas comme s'ils avaient un réseau très compliqué. Est-ce que vous, votre job aussi, c'est de dire, ben regardez tout ce que vous avez sous la main, c'est déjà génial, profitez-en.
Un petit peu, ouais, je pense. Après, je pense que les gens en sont conscients, mais qui aiment bien châtient bien, surtout quand on est français. Non, mais on est très attaché au train. On sait, mais justement, vu qu'on a tout ça, on en attend peut-être un niveau supérieur en termes d'exigence. Et que comme les gens ont pris vachement l'habitude de dépendre du train, bah évidemment, quand il y a un retard, ça nous touche peut-être un peu plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais oui, c'est l'idée, c'est de dire que on est un pays. Enfin, je pense qu'on peut honnêtement en être fier du réseau ferroviaire français. Et on l'a été pendant un moment. Donc il faut s'en rappeler, il faut l'utiliser, il faut, faut pas toujours que taper dessus, quoi.
Ouais, ouais. Et on en parlera tout à l'heure. Il faut continuer à investir dedans parce que c'est un réseau qui doit s'entretenir et ouais. qui a besoin d'investissement public.
C'est aussi le fait faire sortir les gens en train de la France leur fera aussi découvrir ce qu'il y a ailleurs. Et du coup, quand ils reviendront, ils prendront aussi conscience de ça. Donc c'est vraiment aller voir ailleurs, enfin visiter la France, aller voir ailleurs, allez-y en train et vous verrez à quel point en fait vous avez de la chance et vous aurez encore plus envie d'aller en France.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai fait 2-3 voyages interrail et à chaque fois, le train retour qui était un train qui me ramenait à Paris, qui était toujours un TGV, à chaque fois quand je m'installais dans le TGV, je me disais « Ah, c'est quand même le meilleur train de tout le voyage ». Et c'est vrai qu'on a une énorme chance, en fait.
Bien sûr. Mais il y a aussi des compagnies ailleurs qui sont mieux que les nôtres. Et c'est ça aussi qu'il faut aller découvrir. C'est ça qui peut être intéressant de voir, en fait, le panel qu'il y a, c'est rare. Mais du coup, voilà, et en fait, tu as aussi une diversité dans le train que tu n'as pas vraiment dans l'avion. L'avion, c'est un avion, c'est tous les mêmes, soit c'est un Boeing, soit c'est un Airbus. Il décolle, il atterrit. Les trains, en fait, ils vont avoir des formes différentes, ils vont avoir une ambiance différente, une odeur différente. Et en fait, tout ça, ça fait partie du voyage et ça va se rajouter dans les souvenirs qu'on va avoir. Et ouais, donc je pense que c'est important.
C'est la passion du train.
La passion du train.
Je comprends, mais je suis à fond passion train. Je m'émerveille devant un train corail. Hein, donc
On discutait hier avec les gens de la SNCF et c'est ce que je disais. Je me suis pris de passion à trouver vraiment sexy les locomotives. C'est-à-dire, genre, comme tu vois, des gens peuvent avoir une passion pour une belle voiture. Je suis maintenant, du coup, sur LinkedIn, on suit des conducteurs de train qui prennent les photos de train sous un beau coucher de soleil ou sous un beau. Et putain, et la dernière fois, je regardais, il y avait un TER. Et je le regardais, j'ai dit, il a une bonne gueule, tu vois, il est joli, tu vois. Et j'ai trouvé le potentiel sexy, le potentiel, ok, ça a de la gueule, tu vois. Et je pense que, et c'est de ça dont on a besoin de dire, putain, en fait, ça a de la gueule. Ça a de la gueule et c'est beau et tu vois, et on aura, et en fait, pareil, là où hier, on prenait, tout le monde prend en photo son aile d'avion, son hublot, ou essaye de prendre en photo le cockpit de l'avion. En fait, c'est faisable avec le train.
Bah ouais, carrément.
Il faut juste changer l'imaginaire et il faut que l'habituer les gens à le faire. Plus les gens vont voir.
La vue est souvent plus belle.
Ouais, la vue. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut créer un hashtag passion train avec des stories de rail.
Ça arrive.
On a hâte de voir ça. Ok. Mais alors, on a un gros problème en France et c'était un peu un sujet quand on a essayé de mettre en place des politiques pour favoriser le ferroviaire, c'est que c'est souvent plus cher en fait que l'avion. Alors comment on fait? Est-ce que c'est trop cher? On sait que le kérosène des avions n'est pas taxé, on sait que les droits de péage sur le ferroviaire en France sont très élevés. Donc ça veut dire qu'on surtaxe le train et on sous-taxe l'avion. Est-ce que c'est seulement un problème de pouvoir public? Est-ce que c'est la SNCF? Vous en pensez quoi, vous?
Vaste sujet.
Allez, deux minutes.
Je crois que vous avez un avis sur le jeu.
En fait, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que le train soit cher. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de compétitivité, ou du moins pas encore autant que l'Europe voudrait, et qui fait que du coup, on a les prix un peu plus chers. Après, bien entendu, du coup, nous, on va se dire que la solution la plus simple, ce serait forcément d'essayer de voir pour taxer l'hydrocarbure des avions et pour du coup financer la transition écologique. En fait, toute sorte qui permettra de transférer de l'argent, on va dire, qui pollue vers un investissement qui va rendre une économie plus vertueuse et moins carbonée, sera une bonne solution. Ça va mécaniquement passer par les pouvoirs publics, au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen, parce que du coup, c'est le fait que les aéroports sont des un peu particuliers, et du coup, c'est compliqué d'appliquer des taxes dessus d'un point de vue légal. Donc, il faut tout changer. Et après, je pense qu'il faut aussi changer d'un... Moi, dans les discussions que j'ai avec des amis, c'est souvent en fait, je pense que les personnes qui prennent pas le train pour voyager, par exemple, en France, parce que c'est le cas, en fait, on parle du train qui est cher en France. Les gens qui prennent pas le train pour voyager en France, parce que c'est pour une raison d'argent et qui ont vraiment pas les moyens, ils prennent la voiture. Ils se reportent sur la voiture et ils ont la possibilité, du coup, de faire du covoiturage pour s'y retrouver financièrement et pour baisser le bilan carbone de leur déplacement. Ceux qui prennent, moi, les gens avec qui je discute, généralement, ceux qui prennent l'avion, c'est des gens qui sont cadre supérieur,
qui ont les moyens,
mais qui sont dans cette logique de non mais mon temps et mon argent c'est beaucoup trop cher, tu te rends compte? Et en fait je me dis, mais en fait si ces gens qui gagnent très bien leur vie ne font pas l'effort, qui va le faire? Tu vois, et on parlait tout à l'heure de l'empreinte moyenne du français. Effectivement, les transports c'est le premier, c'est environ 2 tonnes, et t'as uniquement 0,4, donc 400 kilos de CO2 qui est représenté par l'avion. Le français moyen n'existe pas.
Oui,
Bernard Arnault vient ici, on est tous millionnaires en moyenne. Et en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, aujourd'hui, les gens qui prennent l'avion, ils prennent l'avion pour faire des plus longues distances. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont l'habitude de prendre l'avion régulièrement, qui généralement sont plutôt aisés, surtout pour des voyages en France. Et c'est à eux de se dire, d'essayer de faire un effort. Parce qu'effectivement, si eux font pas l'effort, personne ne fera.
Alors qu'en plus, on sait que sur des trajets, par exemple Paris-Marseille ou Paris-Londres ou ce genre de petits trajets, on sait qu'en train, même si le temps de trajet du train est plus long, en fait, on a plus de temps disponible que quand on prend l'avion, parce qu'il y a moins de ruptures de charge. Et une fois qu'on est dans le train, surtout, on fait ce qu'on veut, quoi.
Ouais, non, c'est ça, complètement. Et juste, quand même, petite remarque, le train, tu l'as bien dit, en France, c'est globalement souvent plus cher, et encore que... mais il faut pas faire non plus des généralités. Et on s'est mis dans notre tête que ça allait être forcément plus cher de voyager en train. Déjà, ça, faut voir ce qu'on prend en compte dans le coût du voyage. Quoi.
Ouais.
Si tu t'arrêtes en chemin, moi j'estime que t'as peut-être payé 100 € de billet de plus, mais en même temps t'as découvert 3 villes sur le chemin.
C'est ça. Bon,
Ouais. Et puis c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai partout, quoi. En Italie, les trains sont vraiment pas très chers, et puis plus on va vers l'est, généralement plus
ça coûte plus rien.
Plus les prix
quand t'arrives à avoir le billet.
Donc voilà, il faut pas prendre comme moyenne de base du prix du ticket de train celui en France.
Non, ouais, évidemment. Mais c'est un sujet qui revient souvent en fait.
Quand
on aborde ce thème.
Normal, la première. Mais...
Ok, et donc sur ce sujet-là, en Allemagne, depuis le 1er mai, ils expérimentent quelque chose qui est quand même assez dingue. À 49 € par mois, on a accès à tous les transports locaux et régionaux. Vous pensez que ça, c'est le futur?
En tout cas, ça a incité pas mal. Ils l'avaient déjà lancé l'année dernière sur une plus petite période et moins cher. Et ça avait incité, j'ai pas les chiffres en tête, mais énormément de gens à prendre le train. Alors si ça marche, c'est génial. Mais le fait est qu'on pourra pas demain... proposer à tout le monde de payer seulement 50 € par mois et d'avoir accès à tous les trains.
Ouais.
Donc ensuite, quelle est la solution? Est-ce qu'on propose ça aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces billets dont on parlait d'un Paris-Lyon qui coûte 150 €? Je sais pas où est la solution, mais c'est vrai qu'en tout cas, proposer aux gens qui n'ont pas les moyens de le faire des solutions de ce type pour les inciter à prendre le train plutôt qu'autre chose, ce serait génial si ça arrivait chez nous.
Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était inspirant. C'est que tout n'est pas perdu sur ce sujet-là. Quoi.
C'est super inspirant. Mais c'est vrai que c'est un gros coût. Et ça, c'est une décision politique qui est derrière. Donc ça va pas pouvoir devenir la norme, quoi.
Ouais.
C'est plus on met le pied à l'étrier des gens pour qu'ils testent et qu'ils reviennent ensuite en payant plus cher, voir si on peut avoir ce genre d'offre en effet pour des personnes qui en ont un peu plus besoin. Mais oui, c'est une décision politique qui coûte cher et donc faut pas non plus se leurrer, il y aura pas ça.
Ouais, bah avec un pass Navigo à 85, ben je vois voilà, pas comment on pourrait avoir le pass Navigo plus toute la France en train à seulement 50. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé donc du transport, on a parlé de Molo, mais on n'a pas parlé d'exemple. Est-ce que vous pouvez chacun me donner le voyage que vous proposez sur le site qui vous inspire le plus? Et alors, si vous avez des chiffres d'émissions, c'est encore mieux. Mais bon, on pourra les rajouter après.
Ouais. Ils sont sur le site.
Ils sont sur le site, voilà.
Enfin, j'ai pas... Alors moi, celui qui me fait le plus rêver, c'est le Maroc.
Ouais.
Moi, je trouve ça trop stylé, inspirationnellement, de dire on peut sortir du continent sans avion. Ça, je trouve ça trop bien. Et ça fait passer par l'Espagne. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller à Madrid. C'était à 3 ans. Et c'est une ville que j'ai adorée. Et j'aimerais beaucoup y repasser. Et du coup, ce voyage au Maroc me permettrait d'y aller. Et pareil, le Maroc, j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais plus jeune, en avion bien entendu. Et c'est un pays que j'ai toujours trouvé extrêmement plein de nouveautés, plein d'odeurs, plein de. Je fais un peu de surf aussi, donc on peut surfer là-bas. Donc ça c'est vraiment le voyage de rêve. Malheureusement, il y a le ferry. Pour faire traverser. Mais encore une fois, c'est tout petit. Ouais. C'est quelques kilomètres. Quelques kilomètres, donc c'est largement. Et de ce que j'ai compris, du coup, des échanges qu'on a avec les membres de la communauté qui l'ont déjà fait, c'est que le réseau de trains marocains est extrêmement moderne.
Ouais.
Et du coup, ça permet de casser un peu les idées reçues qu'on peut avoir. On pense au Maroc, et forcément on va penser que c'est pas aussi bien, et en fait on va s'apercevoir en arrivant là-bas que en fait le truc est hyper moderne, que c'est largement accessible d'un point de vue financier. Et je trouve que ça donne encore plus envie d'aller découvrir, trouver un peu ce qui se passe là-bas. Donc ouais, Maroc en number one.
Ok. Et c'est combien? T'as une idée du temps à peu près?
On a un des membres de la communauté l'a fait pour un voyage en 2 semaines.
Ok.
Mais en gros t'as 6 heures pour aller à Barcelone, tu fais une nuit à Barcelone, tu prends 2 heures pour aller à Madrid, tu fais encore une nuit à Madrid. Et ensuite, de Madrid à en bas Séville, et ensuite tu dois avoir 4-5 heures. Et après c'est ferry, c'est un ferry pour 1 heure grand max.
Ouais. Sauf que t'as visité 3 villes en Espagne.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Et que t'as vu apparemment le détroit de Gibraltar, qui est une vue qui est incroyable, de se retrouver du coup d'un côté, en Espagne, voir le détroit de Gibraltar, et derrière voir du coup l'autre continent qui est derrière. Et ça, en fait, c'est des images qui, je pense, restent dans nos imaginaires, qui restent dans notre tête et en souvenir, et qu'on n'aura jamais avec l'avion.
Ouais, parce que tu t'en souviendras bien plus que si tu avais fait l'aller-retour en avion sur 3 jours, quoi.
Exactement. Donc voilà. Okay. Et je reviendrai vers vous avec le chiffre carbone.
Okay, qui est disponible sur le site. Non, mais voilà, allez voir sur le site, ouais. Et il y a plein d'autres voyages. Cara, toi, t'as un voyage en tête?
Bah alors déjà, je recommande celui qui m'a un peu plongé dans tout ça, qui est celui qui va en Grèce,
ouais.
Qui est, je l'admets, pas des plus simples.
Je suis en train de l'organiser en ce moment, je confirme. Mais en soi, déjà, l'organisation est une aventure, donc ça vaut vraiment le coup.
Et beaucoup plus simple avec Molo.
Oui,
en plus.
Mais tu verras, l'expérience vaut le coup aussi. Non, mais honnêtement, si je suis complètement transparente, il y a eu quelques galères. Enfin, tu te retrouves sur un ferry qui est pas du tout adapté aujourd'hui aux piétons. C'est plutôt, ouais. Tu te retrouves avec les camionneurs. Mais c'est hyper drôle parce que du coup, ça fait des. Je suis partie avec 2 autres potes et ça nous fait des souvenirs. Ce que tu disais, en fait, on s'en souvient vachement plus. Et je me souviens presque plus de tout le trajet que la semaine, les 2 semaines qu'on a fait en Grèce derrière, quoi. Qui était trop cool,
ouais.
Mais bon.
Mais c'est pas ce que tu.
C'est pas marquant.
C'est pas le premier souvenir.
Enfin, si, c'est marquant. Mais
et alors, comment on va en Grèce sans prendre l'avion?
Alors moi, celui que j'avais fait, il y avait un bout de ferry aussi, mais il y a une autre façon que je vous laisserai découvrir sur le site, parce que je la connais pas par cœur, mais globalement, on est allé jusque dans les Pouilles, en Italie, et de là, on avait pris le ferry jusqu'à Igoumenitsa, et après, on était allé dans les Sporades, donc on avait traversé la Grèce,
ouais.
On avait découvert du coup les Météores, qui étaient vraiment le meilleur stop du trajet, enfin, c'était vraiment incroyable, et voilà, on était arrivé dans les Sporades.
Ça, c'est pas forcément un réflexe qu'on a de se dire je vais en Grèce en traversant toute l'Italie en train, quoi.
Ouais, non, c'est clair, j'en l'avais pas non plus d'ailleurs. Mais voilà, c'était assez assez dingue. Mais par contre, du coup, celui que j'aimerais faire, parce qu'on n'a pas testé tous ceux du site, hein, faut pas se leurrer, c'est celui qui va à Istanbul, parce que parce que voilà, il y a tout l'imaginaire derrière de l'Orient Express, que en plus c'est pas si compliqué que ça.
Ouais, c'est trois trains seulement, ouais, c'est ça.
Ouais. C'est trois trains de nuit. Et donc, je sais pas, ça a l'air à la fois pas trop compliqué et chargé de découvertes et de, je sais pas, d'imaginaire qu'il y a derrière.
En plus, trois trains de nuit, ça veut dire que t'as les jours entre pour faire des visites dans les villes où tu t'arrêtes.
Ouais, c'est ça.
C'est tout bénef, quoi.
Puis, train de nuit, t'économises, au passage, t'économises une nuit d'hôtel, quoi.
Ouais, donc, c'est ça. C'est deux ans. Hein.
S'il y a une question de budget derrière, c'est ça aide.
Et toi, Alizé, alors, c'est quoi ton voyage déjà fait ou voyage de rêve?
Moi, c'est un peu entre les deux. Je pense que c'est celui vers la Laponie suédoise. Donc moi, il y a trois ans, j'étais en Erasmus à Stockholm. Et donc, j'ai réalisé... j'y étais allée en avion à l'époque. Et j'ai réalisé la fin du trajet, donc Stockholm-Laponie en train de nuit. Et c'est vrai que c'était la fin de mon Erasmus en plus. Donc, un peu une expérience inoubliable de se réveiller au milieu de 3 mètres de neige en Laponie. Tu sors du train... t'es au milieu de la glace complètement. Deux heures plus tard, tu loges chez quelqu'un qui en fait a des rennes dans son jardin. Enfin,
Dépaysement total.
C'est complètement fou. Et en fait, en Suède, j'ai trouvé que les gens avaient déjà passé un cap sur l'avion. Ils ont un peu tendance à vraiment le repousser et à pour le coup culpabiliser les gens qui le prennent. Et donc faire tout ce trajet jusqu'à Stockholm puis la Laponie, je pense que c'est vraiment un voyage où tu passes plein d'étapes, Copenhague. Etc., une ville en Allemagne par exemple, et donc qui te permet petit à petit de transitionner vers cette culture des pays du Nord que moi j'ai adoré, et donc faire tout le trajet jusque là pour se retrouver en Laponie, ça m'inspire.
Ouais, je comprends. C'est un voyage que je veux faire aussi. Il me semble maintenant il y a un train de nuit qui fait Hambourg-Stockholm, donc depuis Paris, tu peux aller à Stockholm en seulement trois trains. Donc c'est quand même assez rapide. Top, bah merci pour ces projets inspirants. Et puis aux personnes qui nous écoutent, si vous voulez aller, c'est le site, c'est molo.eu, c'est ça? EU parce que c'est pour l'Europe en particulier ou...
Oui, c'est ça. C'était aussi celui qui était disponible.
Ça marche. Voilà, donc allez voir. Et puis, vous pouvez voir plein de trajets. Et puis, en proposer, si vous avez eu la chance d'en faire. C'est ça, parce que l'idée, c'est que c'est communautaire. Vous voulez en parler peut-être un petit peu maintenant de...
Oui, bah, en gros, nous, on veut que ça devienne une vitrine pour tous les voyageurs qui veulent parler de, de cette expérience-là, que ça devienne vraiment des ambassadeurs. Et on a envie de partir parce que finalement c'est du bouche à oreille, quoi. Les gens vont nous raconter leur histoire et c'est comme ça qu'on a envie d'y aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller à Bali, parce que sur les réseaux on voit du Bali partout. Et donc là on veut donner la parole à cet autre mode de voyage.
Ok, très bien.
D'autres voyageurs.
Alors je suis allé un peu éplucher vos comptes LinkedIn pour avoir trois sujets personnels, un à chacun. Qui veut commencer?
Abonnez-vous. Non, rigole. je peux commencer. Allez,
ok, alors, donc tu as fait un post il y a quelques jours où tu parlais du trajet Saint-Vincent de Tyros, c'est comme ça qu'on dit, jusqu'à Perpignan. Et tu nous expliques que c'est un trajet que tu as été souvent amené à faire pour rentrer chez tes parents quand tu étais étudiant.
Non, maintenant. Encore maintenant.
Ouais. Ah ouais, d'accord.
Je vis vers Saint-Vincent de Tyros, mes parents vivent à Perpignan. Et du coup, je fais le trajet, quand je fais le trajet pour rentrer, je le fais en train.
Tu le fais en train. Et donc, tu nous expliques que c'est 4h35 en voiture, 8h en train, et qu'il n'y a pas d'avion, mais que tu avais pensé à encore un moyen de transport alternatif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Absolument. C'était effectivement, c'était un peu pour l'exercice de style et pour le petit gag. Mais effectivement, quand on regarde et quand on prend ces chiffres, j'ai regardé à vol d'oiseau ou au moins à marche. Donc, si on regarde en termes de marche, ça représente 400 km. 400 km, moi quand j'étais petit j'avais un scooter 50 cm cube, j'allais à 50. Et du coup en fait si on fait le calcul en 8 heures, ben en fait on peut faire ces 400 km en scooter.
Et donc, c'est exactement le même temps que le train.
Absolument. Voilà. Et c'était un peu une manière de dire qu'aujourd'hui, et le point c'est un peu le point critique, c'est aujourd'hui les axes, il y a des axes qui sont très bien travaillés, donc des axes surtout Paris, entre les grandes villes, Paris, donc du nord au sud. Malheureusement l'est-ouest est bien moins desservi. Et voilà, et en fait aujourd'hui on est dans une logique où on veut encore accélérer. Ils sont en train d'essayer de faire une nouvelle autoroute, donc la 69, donc d'essayer d'accélérer le passage, le temps de trajet pour les véhicules, donc pour les voitures. Je crois sur 1h30 de trajet on fait gagner 15 km. Il y a beaucoup d'investissements qui étaient prévus dedans, avec beaucoup d'argent public, grâce à la mobilisation, il y a beaucoup moins d'argent public qui devrait être investi là-dedans, donc c'est une bonne chose. Mais du coup, en fait, on est un peu, quand on voit tout ça, on se dit, on a quand même l'impression que l'investissement, l'argent, en fait, il y en a, mais malheureusement, il n'est pas mis au bon endroit. Et il serait temps d'essayer de revoir au moins, enfin, la moindre des choses, en fait, c'est d'essayer de s'assurer d'avoir un entretien des chemins de fer déjà existants, ouais, pour pouvoir garantir l'accessibilité à tout le monde et pouvoir garantir un trajet le plus court possible si on veut concurrencer les autres moyens de transport. Et en fait, il faut mettre de l'argent dedans. Et du coup, voilà, moi, quand je voyais ce truc de 8 heures, bon, après, encore une fois, j'arrive à m'occuper dans le train, moi, je trouve ça agréable, donc je le fais. Mais je me dis, en fait, et dans le choix de mon transport, le critère écologique est quasi prioritaire. Aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'est pas le cas, et je pense qu'effectivement, c'est rebutoire pour certaines personnes de voir ce trajet de 8 heures. Et certaines personnes, en fait, ne vont pas prendre le train parce qu'il y a ces 8 heures. Et donc, c'est vraiment d'essayer de montrer, de pointer ça du doigt, de manière rigolote avec ces scooters. Bien entendu, j'ai pas prévu d'y aller en scooter.
Ouais, j'imagine.
Parce que je pense qu'il y a des côtes aussi avec des descentes, et je pense que ça sera plus compliqué que prévu. Mais effectivement, c'est de montrer que voilà, il faut qu'il y ait des investissements là-dessus, et il faut aussi que l'humain soit capable aussi de hiérarchiser différemment les critères qui vont lui permettre de sélectionner son moyen de transport. Et si on reste sur cette logique de temps-argent, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Donc il faut essayer de voir différent, peut-être de faire monter l'écologie, peut-être d'accepter de passer 8 heures, et peut-être qu'ensuite il y aura des meilleures installations ferroviaires qui permettront de passer de 8 heures à 6 heures.
Et alors aujourd'hui, toi, parce que c'était un peu par là que je voulais aller, tu t'as parlé de l'autoroute à Toulouse. Ouais. Est-ce que tu penses que l'investissement, il manque sur l'infrastructure ferroviaire en tant que telle, ou est-ce que c'est l'offre de services sur cette infrastructure qui manque? En gros, est-ce qu'il faut qu'on construise des rails, ou est-ce que pour l'instant, il y a des rails, mais il n'y a pas les trains qui roulent?
C'est une question qui est, je pense, extrêmement complexe, ouais, parce qu'elle touche à plein de choses. On pourrait avoir une première réflexion qui dit, ok, je vais être compétitif par rapport à l'avion ou à la voiture, les 8 heures, bah, le critère du temps est essentiel, il faut que je réduise le temps, on construit des LGV entre Bayonne et Perpignan.
Ligne
à grande vitesse, ouais, exactement, ouais, qui est entre Paris et Bordeaux, qui permet d'avoir Paris-Bordeaux à deux heures. Et dans ce cas-là, en fait, on rend le transport compétitif sur le point de vue, sur le critère du temps, mais on en parlait en début, on a un impact énorme sur la biodiversité, parce qu'on doit déplacer des choses énormes. Et en fait, cet investissement et cette LGV, elle a aussi un impact, étant donné qu'on va pas pouvoir desservir toutes les gares. Et donc, ça veut dire que c'est de l'argent qui est mis dans un trajet qui va, par définition, ne pas toucher toute la population.
Oui, c'est ça.
Et du coup, on crée une nouvelle fragmentation sociale avec le train.
On réenclave des territoires.
Exactement, et on réenclave, ouais, des choses.
Alors que c'est pas l'idée. Ouais.
Donc, je pense que, et c'est pour ça que le point est surtout, effectivement, l'argent, s'il y en a, il faut absolument le mettre dans l'entretien du réseau ferroviaire pour s'assurer d'avoir la chose la plus clean possible. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la facilité des bonnes solutions qui sont, allez, on met une LGV parce que derrière, on aura plein d'autres impacts. Et c'est pour ça que je pense, à la fin, c'est à nous, en tant qu'utilisateurs et consommateurs, d'accepter les 8 heures de trajet. Et si ça nous fait extrêmement, et ça nous embête énormément, eh bien, on les fait moins et on ne va pas voir ses parents. Mais ça, c'est une autre
position. Ça, c'est pas facile.
Il ne faut pas qu'ils le sachent.
Ça, c'est pas facile. Ok, très bien. Oui, c'est un sujet qui est hyper complexe, et puis c'est des sujets nationaux et puis même européens quand, ouais, on parle d'infrastructure ferroviaire, donc c'est pas facile. Ok, très bien. Et tu penses que aujourd'hui nos politiques, elles ont compris un peu tous ces enjeux-là? Dire qu'on va pas supprimer les jets privés parce qu'il faut pas désenclaver les territoires, on est un peu à côté de la plaque.
En fait, ils sont, on les sent un peu en réactif. Il y a un article qui est paru comme quoi la ligne Bordeaux-Marseille, je crois, allait être supprimée parce que pas du tout rentable. Et du coup, il y a Clément Beaune, donc le ministre des Transports, qui a réagi en disant non, on va réinvestir. Et en fait, on a un peu l'impression que on est en réaction. On est en réaction alors qu'on est dans une situation qui est extrêmement urgente et qui nécessite énormément d'anticipation et un pilotage en fonction de chaque. Et du coup, en fonction du transport, en fonction de chaque poste de transport, on doit avoir un plan d'action qui doit être court, moyen, long terme et qui doit avoir pour but de réduire les émissions tout en permettant d'avoir une accessibilité pour le maximum de personnes. Et aujourd'hui, effectivement, les choix et des choix, tu parles des jets privés, c'est des choix qui sont des choix simples, qui semblent simples, je pense qu'il y a d'autres choses derrière, d'autres complications, mais qui semblent simples, qui sont malheureusement pas pris, et qui fait que, d'un point de vue de la communication, c'est pas bon.
Ouais.
Alors qu'on a l'impression qu'ils sont bons en communication, mais non, tu vois,
il y a un décalage.
Exactement, il y a un décalage entre cette volonté d'avoir une communication qui est parfaite et derrière de prendre les mauvais choix. Et derrière, je pense aussi que ça accentue la fracture sociale entre une justice à deux vitesses ou une loi à deux vitesses avec effectivement les gens en jet privé où on leur dit non, mais allez-y tranquille, on va vous démonter le pont, monsieur Bezos, vous allez pouvoir passer avec votre. C'est un autre sujet encore,
avec
tu vois.
Chiotte, ouais.
Tu vois, dans cette logique où du coup tu te retrouves avec effectivement les gens, ils continuent et ensuite on demande aux gens de faire des efforts, de payer leur billet de train, mais on fait rien pour que les gens qui ont énormément les moyens changent de mode de vie. Et en fait, c'est. On fonctionne aussi beaucoup par mimétisme. Ça sert à rien de dire aux gens de faire les choses, il faut les faire.
Ouais. Donc il faudrait que nos politiques peut-être changent un petit peu. Et donc, super transition, on va parler des grandes boîtes qui, elles aussi, doivent changer. Donc ça, c'est ton sujet, Alizé. Tu en as parlé assez librement sur LinkedIn. Avant de travailler pour Molo, tu travaillais pour Danone. Et tu avais ce que tu qualifiais d'être un job à impact. Donc tu vas nous raconter un peu ce que c'était. Mais tu dis sur LinkedIn, dans ton post, tu dis souvent, j'ai eu l'impression de ne pas faire assez pour la transition. En tout cas, pas assez vite et pas assez radicalement. Et donc, c'est ce qui t'a amené à quitter Danone ou à ne pas poursuivre et à te lancer dans quelque chose de plus concret avec Molo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là ?
Donc moi, en fait, à la sortie de mon école d'ingénieur, qui n'était pas du tout, enfin pas particulièrement en tout cas, axée sur l'environnement, etc., j'ai voulu vraiment agir pour la transition et me dire qu'en fait, mes compétences que j'avais acquises, j'allais les mettre au profit de quelque chose qui me semblait avoir du sens. Donc j'ai commencé par faire 6 mois d'études de plus sur le développement durable en particulier. Et ensuite, j'ai trouvé ce poste chez Danone qui était en RSE et qui alliait une partie ingé, une partie développement durable. Et je me suis dit, super, Danone en plus, c'est une boîte qui est en tout cas à l'extérieur pour une grosse boîte vue comme une entreprise qui montre un peu l'exemple, du moins qui essaye de faire les choses au mieux. Et donc j'étais un peu partie en mode bon c'est génial, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait parfaitement. Ensuite je suis arrivée sur les faits et je pense que ce qui s'est passé c'est que j'avais beaucoup d'attentes et beaucoup de gens ont beaucoup d'attentes des grosses entreprises.
T'avais un peu idéalisé ce que t'allais faire quoi.
C'est ça. Et au final je suis convaincue et je le suis toujours. Que les grosses entreprises ont énormément de choses à apporter et doivent mener la danse, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que chacun se renvoie la balle. Donc les grosses entreprises vont dire, en fait, tant qu'il ne va pas avoir une loi qui va me dire de faire les choses comme ci ou comme ça, je ne vais pas bouger. Tant que mes consommateurs ne vont pas vouloir acheter pour Danone, je sais pas, du yaourt en vrac, en fait, moi, je ne vais pas le lancer parce que ça ne va pas marcher, ça ne va pas être rentable pour moi. Les consommateurs vont dire que de toute façon, les politiques et les grosses entreprises vont tout faire pour l'argent ou je ne sais quoi. Et donc, on rentre dans un cercle de l'inaction qui fait que les choses n'avancent pas. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'avais envie que beaucoup de choses changent. Je bossais en RSE, donc globalement, mon travail, c'était de voir les choses qui n'allaient pas et de les flaguer. Et on me disait, c'est super, t'as montré tout ça.
C'est cool.
Et en fait, ensuite, j'étais là, oui, et donc. Et en fait, les choses avancent, on met des choses en place, et on est société à mission, on est ce qu'on veut. Mais pour faire bouger une énorme machine comme est Danone et comme est n'importe quelle grosse entreprise qui n'a pas été à la base créée pour le bien de l'environnement en tout cas, ça prend du temps. Et c'est vrai que sur un poste où on est en RSE comme ça, ça peut être super frustrant. Surtout quand, moi c'était mon premier emploi, donc on est très junior et en fait on va aller dire à toutes les équipes de bouger les choses. Eux, ils ont des objectifs qui sont derrière financiers et dans tous les cas, c'est l'essence d'une entreprise et pour que ça marche, il faut que l'entreprise soit rentable, sinon ça fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'en suis partie parce que j'ai aussi eu l'opportunité, j'ai découvert un chouette projet qui m'animait et donc c'est pas juste parce que je trouvais pas ma place chez Danone que je suis partie, c'est aussi
pour
l'opportunité. Et je pense que c'est hyper important qu'il y ait des gens très résilients qui soient dans les grosses boîtes et qui essayent de faire bouger les choses. Moi, je pense que j'ai quand même semé un peu mes petites graines et les gens étaient réceptifs à tout ça. Mais c'est vrai que c'est très dur et bravo à ceux qui continuent de mener leur bataille de front parce que c'est hyper important et je pense que dans tous les cas, les entreprises vont finir par changer, mais ça prend du temps et c'est un peu compliqué parfois.
Il y a ce fameux triangle de l'inaction que tu mentionnais qui fait que justement, tout le monde se renvoie la balle, on n'avance pas. Et donc en fait, le seul moyen que ça marche, c'est que tout le monde s'y mette, les politiques, les entreprises et les consommateurs. Et donc nous, en tant que citoyens, il faut faire notre part dans notre boulot et dans notre consommation et dans notre vote. En fait, c'est un peu ça le moyen de s'en sortir. Bon, bah top, merci beaucoup. Et donc, tu parlais d'équipes qui avaient des besoins d'argent, donc on va parler d'argent.
Allez,
super sujet, on adore. Chiara, toi, tu disais, tu parlais sur LinkedIn de Molo, mais du point de vue de l'aventure entrepreneuriale que ça a été, donc de
que c'est toujours.
Que c'est toujours. Mais maintenant, c'est concret, mais quand tu es parti de l'idée pour arriver jusque-là. Et tu nous parlais tu citais une phrase que tu pourras peut-être remettre en contexte, c'était un prof ou un jury.
C'était un jury.
Un jury d'entrepreneuriat.
Non, je ne connaissais pas.
Qui, quand tu lui as pitché le projet, t'as répondu « Je ne crois ni en ce projet, ni en l'équipe ». Alors, déjà, bravo d'avoir continué.
Et il y a des questions qui se sont posées.
Oui, bah ouais, j'imagine, c'est pas évident. Et comment toi, tu l'as perçu? Je me souviens que dans ton post, finalement, c'était assez positif ce que tu disais. Mais comment rebondir là-dessus? Et toi, quels enseignements tu en tires sur, aujourd'hui, comment on fait fonctionner notre économie très capitaliste et des solutions pour un monde plus durable qui sont pas vraiment compatibles, quoi?
Ouais, il y a plusieurs choses. En effet, sur le moment, je l'ai pas pris de manière hyper positive, hein, pour être honnête. L'équipe, c'était pas celle qu'il y avait aujourd'hui. Et, en fait, il y avait plein de choses. Au moment où je pitchais le projet, avec les personnes avec qui je l'ai pitché, je comprends qu'on me dise ça. Mmh. C'est plutôt la façon dont elle a été dite que j'ai pas forcément appréciée. Mais du coup, ça m'a permis... on va dire que c'était, j'ai fait ça dans le cadre de mes études, et donc c'était aussi ça l'idée, d'avoir des retours. Et de toute façon, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, c'est sûr que tu vas avoir, enfin, si t'as pas de critique, c'est qu'il y a un problème, t'as besoin de ça pour avancer. Et donc, encore une fois, c'est juste la façon dont tu t'entoures et les gens, comment ils vont te le présenter qui compte. Là, en l'occurrence, c'était très, très fort. Ça a eu le côté positif de bouger un peu et donc de voir qu'est-ce qui allait pas concrètement et à quel point j'avais envie. Enfin, à quel point ce projet m'animait pour que je continue malgré le fait que c'est pas la rentabilité économique rêvée pour quelqu'un qui veut investir dans ce genre de projet. Ça va être dur d'avoir une équipe qui va se lancer là-dessus, mais en même temps j'y croyais, j'avais envie, et donc je me suis dit ok, ça vaut le coup d'y passer encore quelques mois de plus. Mais gros aspect positif sur le fait que ça m'a fait remettre en question pas mal de choses. Et si tu te remets pas en question, tu vas dans le mur. Donc, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir la chose. Donc, sur ça, c'était cool. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, c'est d'avoir cette impression, et c'est plutôt ça qui m'a fait mal, quoi. Je sors d'une école d'ingé, on est censé, enfin, on nous répète pendant 3-4 ans qu'on est là pour innover, pour disrupter, pour machin. Et en fait, tu ressors et on te demande pas de disrupter quoi que ce soit. On te demande
de rentrer dans le moule.
Voilà, c'est ça. Et tout ce qui est un peu nouveau et qui, en effet, tu vois, trouver un modèle économique sur un projet pareil, c'est un énorme challenge. Et j'aurais plus apprécié qu'ils me disent « Ok, tel quel, j'y crois pas. Mais par contre, j'ai 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Je pense que je peux t'aider et c'est un challenge qui me plaît. Je peux y réfléchir avec toi. » Parce que le mec, c'est pas en 10 minutes qu'il sait si, je pense, il y a vraiment zéro moyen de faire fonctionner la chose. C'est juste toute son expertise et ses habitudes, elles étaient sur un certain modèle. Elles sont sur un certain modèle. Et voilà, quoi, on reste dans notre confort, on reste dans nos habitudes et on ne se dit pas, on va essayer de changer un peu les choses. Et moi, c'est ça qui m'a un peu freiné au début et qui fait que ça a mis un peu de temps à démarrer aussi le projet. C'est vraiment de trouver des personnes qui sont passées dans cette étape supérieure. Ah, non, il faut trouver des nouveaux modèles, il faut repenser pas mal de choses. Ça veut peut-être dire apporter moins d'argent, ça veut peut-être dire... aller à l'encontre de pas mal d'avis actuels, que ce soit auprès des investisseurs, auprès des profs, auprès de tes parents, auprès de pas mal de choses. Mais ils existent, ces écosystèmes-là, où les gens sont convaincus, sont à la fois formés, intelligents, et sont prêts à t'accompagner pour ça. Mais il faut les trouver. Et moi, celui que j'ai eu en sortie d'école, c'était pas du tout un écosystème qui était propice à ça. C'était oui. plus, bon voilà, tu sors d'école d'ingé, t'es censé monter une boîte, lever des fonds.
La revendre et aller sur une plage.
Okay. Voilà, c'est ça.
Très loin.
Mais c'est un peu ça. Parce que évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des profs que j'ai croisés qui sont incroyables et qui m'ont poussé dans cette voie-là, même si au départ, et ça allait toujours, hein, honnêtement, on est encore en train de tester pas mal de modèles économiques. Mmh. Mais c'était un peu ce côté, ouais, sur le papier, on vous dit d'être innovant, on vous dit de, mais finalement, bah, dès que vous sortez un peu de la case, s'il n'y a pas une rentabilité économique derrière ouais. fulgurante, ça nous intéresse moins, quoi.
Et pourtant, tu lui as prouvé que il ou elle avait tort, puisque aujourd'hui, ça marche très bien. Vous avez un gros succès.
Ouais.
Ah, vas-y, vous pouvez croire.
Non, on a un succès. Donc
vous
c'est
avez
vrai.
Lancé là, il y a quelques semaines, quelques mois.
Ouais, un mois et demi, oui, je crois.
Le 17 mars. Non,
c'est... Voilà, c'est le 17 mars.
Et il y a eu de très bons retours, j'ai l'impression. Moi, je vois ouais. que vous sur LinkedIn.
Merci, on est très actifs. Non, il y a eu un bon retour. Il y a eu un bon retour, mais qui confirme le... Bah, déjà, le besoin.
Le besoin, ouais.
Le besoin et le public. Voilà, donc... Et c'est cool, et ce que disait Chiara est vachement important. En fait, le fait aussi d'être une association nous a permis de nous libérer de la contrainte du business model pour pouvoir mettre sur le marché notre MVP, donc notre première ébauche de plateforme, et de comprendre un peu, voilà, et de commencer à interagir avec les utilisateurs pour comprendre ce dont ils avaient besoin, etc., etc. Et on a eu une visibilité énorme qui fait qu'on a été contacté par plein de gens, par plein de potentiels partenaires, par beaucoup de gens qui étaient persuadés qu'on était une start-up qui voulait nous aider à lever des fonds. Mais ce qui est bien, et ce qui est aussi un compliment pour nous,
ouais.
parce qu'on a aussi toujours travaillé l'association et le projet Molo comme étant une start-up, avec les outils de la communication, la réflexion sur le marketing, la réflexion sur comment est-ce qu'on allait aborder nos stratégies de partenaires. Et donc, en fait, nous dire on veut vous aider à lever des fonds, c'est un compliment qu'on nous fait. Après, bon, on n'a pas besoin de lever des fonds parce que du coup, on est une association. Mais ouais, ça nous a vachement aidé et c'est aussi voilà, et c'est aussi une nouvelle vibe qu'on voudrait peut-être lancer, tu vois, que demain ce soit il y ait le réflexe train et il y a aussi le réflexe asso qui garantit en fait que quand t'es une asso, ça t'empêche pas de pas avoir un modèle économique, ça t'empêche pas de facturer des choses à tes clients, ça t'empêche pas d'avoir des salariés, ça t'empêche pas d'avoir une vision d'entreprise, mais d'un modèle associatif, c'est juste que tu garantis que l'argent qui va être accumulé sera investi dans les projets.
Ouais.
Et comme tous les projets ont pour but de décarboner l'économie, bah, c'est un truc sur lequel nous on trouve que ça nous va bien, et c'est avec ça qu'on va aller le plus loin possible. Ouais.
Ça marche. Et aujourd'hui, financièrement, vous arrivez à vivre avec Molo ou c'est pas encore le cas? Vous voulez pas en parler?
Non, je pense qu'on peut être transparent là-dessus. Ouais.
Aujourd'hui, sur notre compte en banque, Molo, il y a zéro.
Ouais, c'est pas vrai.
Il y a zéro.
Quelques petits dons.
Non, mais oui. En fait, on a une réalité. On sait qu'on a des échéances. Et ce sont des échéances, du coup, personnelles. Mm. On sait combien de temps on peut, entre guillemets, tenir sans rien. Mais du coup, on est assez clair sur les modèles qui vont nous permettre d'avoir de l'argent. Le fait d'être une association nous permet de pouvoir répondre aussi à des appels à projets. Et de bénéficier de subventions, donc que ce soit des subventions de l'État, des subventions peut-être de l'Europe, des subventions des territoires, donc ça c'est une partie qu'on est en train de travailler. Et à côté, ben, on se veut aussi comme une entreprise, on essaie de voir pour développer des partenaires économiques avec du coup ben, les opérateurs ferroviaires, avec les partenaires du transport, avec le tourisme, peut-être demain avec les hébergements. En fait, il y a de multiples possibilités de faire les choses, et en fait là on priorise. Toujours notre objectif final, c'est que l'utilisateur, lui, ne paye rien, soit bénéfique, que la plateforme soit dédiée. Et ensuite, nous, le deuxième objectif, c'est de voir, du coup, pour faire évoluer la plateforme avec potentiellement d'autres partenariats qui vont nous permettre rapidement de pouvoir nous rémunérer et de pouvoir, derrière, pouvoir en vivre. Parce qu'on est aussi cohérent. Le plus on arrivera à générer d'argent, le plus on pourra... déjà, ça nous permettra d'avoir un salaire. Donc, permettra peut-être demain, et c'est ce qu'on veut, d'embaucher. Et plus la structure Molo grossira, plus elle aura de l'impact. Donc, tout est lié.
Mais c'est vrai que du coup, en soi, ça va vite. Quoi. On l'a lancé il y a un mois et demi. C'est vrai qu'il faut ce temps-là de mettre en place pas mal de choses. Mais oui, du coup, pour revenir un petit peu, ça fait le lien avec ce sujet-là. C'est que j'ai perdu, je pense, énormément de temps au début à me dire j'avais mes cases, mes petites cases, oui. Et je me disais, OK, ce projet-là, c'est trop cool, mais il y a un besoin. Mais je ne vois zéro, absolument zéro modèle économique. Ouais, et tous les gens à qui j'en parlais, c'est comment tu vas gagner de l'argent.
Comment tu gagnes de l'argent.
Et du coup, j'ai attendu un an avant de faire quoi que ce soit, avant de faire une ébauche de site, ouais, d'en parler vraiment concrètement. Alors que s'il y a un besoin, tu le lances, le besoin est validé, le modèle économique, normalement, il suit.
Il suit, oui. Je pose la question parce
mais
que...
c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Ouais. Quoi.
J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, comme vous, mais qui n'osent pas le faire parce qu'ils se disent « Ah, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas vivre avec ça. » Et pour vous, c'est un vrai frein.
On n'a pas la solution, quoi. Aussi bien, ça ne va pas. Mais en l'occurrence, là, ça a quand même aidé pas mal. Au pire, ça marche. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça au bout d'un moment pour me bouger. Parce que, au pire quoi.
Ouais.
Et au pire, y a zéro répondant, et tant pis, tu continues dans ton taf actuel. Et au mieux, y a un besoin, et s'il y a un besoin, soit t'aides des gens, donc t'as pas d'argent peut-être, mais au moins t'as aidé des gens. Mmh. Et au mieux, t'arrives à en vivre derrière, parce que s'il y a un besoin, normalement, et que tu creuses un peu, et que tu es un peu innovant.
Faut fouiller, ouais. Ok. Ouais, parce que je pense que c'est un vrai sujet, ça, sur tous ces sujets qui sont liés en fait à la sobriété, il n'y a pas d'argent.
Mais c'est vrai que du coup, ça bloque énormément de gens à se lancer, à lancer un truc. Et tout le monde ne peut pas avoir la flexibilité qu'on a potentiellement eue de prendre un peu de temps sans rémunération pour le lancer. Mais du coup, si on l'a, je pense que tu mets des choses de côté, c'est sûr. Tu mets un CDI, tu mets un salaire, dans l'apprentissage qui va avec aussi. Mais voilà, si... Ça peut se faire très vite, en fait.
Ouais,
tester le besoin, ça peut aller très vite. Donc moi, le conseil, ce serait de ne pas attendre un an parce qu'on n'a aucune idée de comment faire de l'argent derrière. Vaut mieux tester le besoin et puis on verra après.
Ok, super. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin. Ça fait un bon moment qu'on parle. Merci beaucoup. Pour finir, je voudrais vous poser une question parce que notre émission, elle s'appelle quand même « Et après ?» On essaie d'imaginer le monde de demain. Selon vous, à quoi il ressemble ce monde de demain? Un monde qui est décarboné, juste et durable. À quoi ça ressemble? Alors, tu veux commencer peut-être à
viser? Oui. Alors, c'est une vaste question.
Oui.
Mais ouais, si je parlais dans l'idéal, je dirais que c'est un monde où tout un chacun joue un rôle. Et peut-être que je peux dire tout le monde est activiste. Alors, activiste pas au sens où on l'entend aujourd'hui, pas quelqu'un qui part dans la rue avec des pancartes, qui fait des grosses actions coup de poing ou je ne sais quoi, mais plus activiste dans le sens quelqu'un qui agit au quotidien pour le monde qui l'entoure, que ce soit pour l'écologie, pour le social... Peu importe, mais en fait, en se disant que ces actions au quotidien, les faire bien et les faire de façon qui a du sens, sans abîmer ce qu'il y a autour, et en fait, c'est ça qui peut l'animer au quotidien et qui peut le rendre heureux finalement. Donc, un monde où la sobriété, c'est en fait l'objectif, et un objectif chouette et pas un objectif comme on le voit beaucoup aujourd'hui, qui est en fait... terrible et très compliqué à atteindre.
Oui. Parce que le paradigme de notre société qui est orienté vers l'accumulation de capital, en fait, simplement. Donc, c'est plutôt orienté vers accumulation, mais de service à la communauté.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Ok, ça marche, super. Merci beaucoup.
Ouais, c'est un peu en lien avec Alizée. Pour moi, ça, du coup, c'est impossible s'il n'y a pas plus, je dirais, d'empathie, de manière générale, dans le monde. On est très... souvent égocentrique et en fait ce qui enclenche le passage à l'action et le fait d'avoir un rôle au sein de la société et tout ça, c'est qu'on pense plus qu'à soi et à l'accumulation de ses richesses à soi, mais plutôt comment je vais impacter rien que ma famille, mais c'est aussi que je connais pas et on perd je pense vachement d'empathie parce qu'il y a plein de... autant on en a créé plein de liens via les réseaux sociaux et tout ça, autant on en a perdu beaucoup de vrais et de concrets et voilà, s'il n'y a pas un minimum d'empathie en plus, on n'y arrivera pas. Mais donc, ce monde-là, il est génial parce que ça veut dire que tout le monde est beaucoup plus concerné par les sentiments et les places des autres qui l'entourent. Quoi.
Ouais,
donc, ce serait assez cool.
Sympa, merci.
Tout a été dit. non, mais effectivement, ça rejoint beaucoup plus de partage entre les gens, beaucoup plus d'échanges et d'échanges en prenant en compte les réalités de chacun et avec beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de gens contre aujourd'hui. On est contre ça. Parce qu'on prend des positions.
On est contre l'avion alors qu'on devrait être pour le train.
Ouais, exactement.
Ouais, okay.
Mais voilà. Et je pense qu'on est aussi à un tournant où on parle beaucoup de, voilà, de social, ce qu'on veut, donc le partage, c'est beaucoup de trucs sociaux. Et moi, en fait, le truc qui me manque quand même, c'est cette... En fait, ça fait des années que les scientifiques alertent. Et en fait, on est dans un monde où on n'écoute pas le rationnel. On n'écoute pas le chiffre, on n'écoute pas... Et en fait, dans un... Parce qu'on a peut-être du mal à percevoir l'impact que ça va avoir sur nous. Mais voilà, moi, dans le monde de demain, c'est un monde où on a écouté les alertes des scientifiques, des gens qui travaillent sur le sujet depuis des années. On a mis en place des actions. Et on se retrouve du coup dans une société qui est beaucoup plus basée sur le partage, sur le social, sur l'échange, et où on prend le temps. On prend le temps de faire les choses, parce qu'on profitera beaucoup plus des choses qu'on a fait en ayant pris du temps, et parce qu'on sera moins dans une logique de consommation, consommation, consommation.
On y va mollo, quoi.
Exactement.
Super. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Donc, je rappelle que vous êtes les trois cofondateurs, c'est comme ça que vous le vendez,
ouais.
De Mollo, qui est donc une association et non pas une start-up, qui a pour but de promouvoir des voyages durables à base de beaucoup de trains. Et votre site web, c'est mollo.eu. Vous êtes invités à aller voir les voyages qui sont proposés et aussi à aller proposer vos propres voyages si vous en avez déjà fait. Et vous pouvez aussi partager des photos et des vidéos parce qu'il me semble que vous êtes preneur de ce genre de contenu.
Ouais, ouais. Absolument. Preneur de toutes les expériences sur vos voyages.
Ça marche. Eh bien, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier épisode. Un grand merci à vous qui êtes encore là après cette petite heure et demie de discussion. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le voyage bas carbone. Si ce n'est pas déjà fait, foncez vous abonner à notre page Instagram, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver un condensé de cet épisode en vidéo. Si l'émission vous plaît, surtout, surtout, parlez-en autour de vous, likez et partagez nos posts, nos podcasts et nos vidéos pour faire tourner les algorithmes, enfin, vous connaissez la chanson. Enfin, si vous voulez nous soutenir financièrement, car nous sommes autoproduits, vous pouvez passer sur notre page Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Pour finir, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, questions, suggestions ou vos meilleurs itinéraires bas carbone pour le monde de demain à emissionetapres@gmail.com sans aucun accent ou sur nos réseaux sociaux. Nous démarrons tout juste la production, donc tous vos retours seront les bienvenus. Je vous donne rendez-vous au plus tard à la rentrée pour le prochain épisode. D'ici là, passez un bel été et si vous avez la chance de partir en vacances, profitez bien du train. À bientôt !